Frères et sœurs, les amis, nous voilà donc arrivés au troisième dimanche du temps de l'Avent, toujours en compagnie de Saint Jean le Baptiste, dont nous avons rappelé qu'il clôt la grande lignée des prophètes de l'Ancien Testament. Il est parmi le plus grand des prophètes. Nous allons franchir une petite étape avec l'évangile de ce jour, mais j'aimerais dire un tout petit mot sur la première lecture tirée du prophète Sophonie, petit prophète, mais bon, par définition, un prophète, c'est jamais petit, pour noter ce dimanche qui est le dimanche de la joie. Vous savez qu'il y a, durant le temps de l'Avent et le temps du Carême, un dimanche qui est réservé à la joie de ce qui va arriver la naissance du Christ pendant le temps de l'Avent, et la joie qui va arriver au terme du Carême, qui est la résurrection du Christ. Alors cette joie, elle est manifestée chez Sophonie avec un certain humour, mais surtout beaucoup d'audace, de penser que Dieu danse avec son peuple. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Alors je trouve ça très beau et très audacieux de la part d'un prophète, mais c'est inhérent aussi à une parole prophétique. Dieu danse avec son peuple. Donc voilà la joie qui est exprimée à sa manière dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, la joie, tout au moins de ce troisième dimanche de l'Avent, ça va être l'annonce, bien sûr, de la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle dont est porteur Saint Jean le Baptiste, qui va d'entrée de jeu nous dire que Jésus vient. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et par ses exhortations et bien d'autres encore, Jean le Baptiste annonçait au peuple la bonne nouvelle. Alors quand Saint-Luc nous parle de bonne nouvelle, il s'agit de celle-là, celle dont est porteur Jean le Baptiste, c'est-à-dire ce Messie tant attendu. Alors nous voyons bien que les personnes qui suivent Jean le Baptiste et qui assistent ou se font baptiser dans ce rituel du baptême, c'est nous rappeler que, dans une première constatation, c'est qu'au temps de Jésus, la pratique du baptême était tout à fait récente et très peu répandue. Du reste, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, les termes baptême et baptisé, on ne les trouve presque jamais, ni en hébreu ni en grec du reste. Il n'était dit nulle part dans la joie juive qu'on devait se faire baptiser. Le rite d'entrée dans la communauté juive, nous le savons, c'est la circoncision. Hein. Et si à l'époque du Christ, on pouvait désigner un certain Jean, du reste Jean le précurseur ou Jean dit le Baptiste, c'est bien qu'il y avait là réellement un signe distinct et un signe nouveau dont est porteur Jean le Baptiste. Et ce signe nouveau, c'est d'annoncer que lui baptise dans l'eau, mais il y en a un qui viendra et qui baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors, on a tellement l'habitude, j'allais dire, d'entendre cette parole de Dieu que cela ne nous étonne pas outre mesure, mais mettons-nous à la place, toujours important de se replacer dans le contexte, de ceux et celles qui écoutaient cette parole. Entendre dire que lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est quelque chose d'énorme et d'incompréhensible pour l'époque. Pourquoi ? Parce que justement, Jean-Baptiste est en train de baptiser les Juifs dans l'eau du Jourdain. Mais la suite de la phrase, dans l'Esprit Saint et dans le feu, a fait l'effet comme d'une sorte de bombe, l'effet de grande surprise. Si nous avions, nous, à cette époque, en nous remettant dans le contexte, entendu Jean le Baptiste dire ceci. Pourquoi, alors que nous sommes tellement habitués à ces paroles, l'expression « Esprit Saint » n'existait pas ou très peu dans l'Ancienne Alliance. Vous voyez, toujours faire référence à l'Ancienne Alliance pour mieux comprendre le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Oui, l'Esprit Saint était un terme qui n'existait que très peu et très rarement employé. Oui, nous le savons, cette alliance entre Dieu et son peuple, notamment au travers du grand personnage qu'est Moïse, cette alliance rejoignait la préoccupation première du peuple de l'époque, c'est-à-dire d'être délivré, je vous le rappelle à chaque fois, de l'occupant. Ils attendaient une délivrance, si on peut s'exprimer ainsi. La première urgence était de délivrer le peuple de l'occupant, mais dans l'ancienne alliance, c'est délivrer du polythéisme, c'est-à-dire de tous ces dieux factices qui étaient apportés par les différents rois qui se sont succédés sur le trône d'Israël. Mais on voit bien que, d'une part, dans l'Ancienne Alliance, c'était se débarrasser du polythéisme et de retrouver ce Dieu unique, le Dieu de l'Alliance. Et dans le Nouveau Testament, c'était se débarrasser de l'occupant. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'Ancienne Alliance était occupée par des dieux multiples. Et la Nouvelle Alliance, le Dieu unique est arrivé très spécialement la personne de Jésus-Christ, mais il y avait aussi une autre délivrance à faire, c'était la délivrance du peuple romain qui envahissait le pays. Alors, on sent bien que les paroles de Jean le Baptiste sont comme une sorte de révélation pour ceux qui écoutaient cela. Parce qu'il annonce un baptême dans l'Esprit Saint et non plus simplement un baptême avec de l'eau. La fin du texte de l'Évangile montre, à partir du verset 17, qui commence ainsi, « Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air à battre le blé ». On se demande qu'est-ce que ces versets viennent faire juste après cette annonce de Jean le Baptiste. Eh bien, c'est pour nous rappeler que ce Messie qui va venir vient exercer le jugement de Dieu. Ce jugement de Dieu, nous le savons, il faut bien le comprendre, était évoqué comme une sorte de purification par le feu dans l'Ancienne Alliance. Et nous le retrouvons ici, ce mot « feu » qui exerce, si je puis dire, une opération de tri. Il tient en main la peine à vanner pour nettoyer son air à battre le blé et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors les auditeurs qui étaient là comprenaient cette image, parce que le feu est extrêmement présent dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Mais de bien comprendre que le tri dont il est question ne détruit pas, ne supprime pas la personne. Ce n'est pas un feu destructeur, c'est comme le buisson ardent. C'est un buisson qui a permis à Moïse d'entrevoir Dieu. On pourrait prendre une autre image, puisque ce feu ne détruit pas, il est simplement une purification, comme la pépite d'or est purifiée de tout ce qui l'encombre pour être plus belle encore. Et donc ce feu nous débarrassera tous de ce qui, en chacun de nous, n'est pas conforme au royaume de justice et de paix instauré par le Messie qui vient. Esprit Saint et le feu sont donc les caractéristiques de ce qui va devenir le baptême chrétien aujourd'hui. L'Esprit Saint n'était pas compris comme étant ou entendu comme étant une personne distincte, tandis que la grande marche qui va être entreprise avec le baptême chrétien, c'est de comprendre que en revêtant le Christ par notre baptême, c'est le geste du vêtement blanc, nous allons revêtir la personne de l'Esprit-Saint. Pourquoi ? Parce que nous vivons sous le régime de l'Esprit-Saint au lendemain de la Pentecôte et de l'Ascension. J'enverrai mon Esprit sur toute chair. Donc nous revêtons le jour du baptême chrétien la personne même du Christ par son Esprit-Saint, c'est-à-dire une des personnes de la Trinité, l'Esprit-Saint. Donc jamais oublier ça, qui est symbolisé d'abord par l'onction du Saint-Crème, mais ensuite par le vêtement blanc qui nous fait comprendre de manière plus tangible et plus visuelle que le Saint-Crème, à la limite, que nous avons revêtu la personne même de l'Esprit-Saint. Alors vivons ces jours qui nous séparent de la fête de Noël, le cœur habité par l'Esprit-Saint. Amen.